Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Au détour d'une asso. Cette semaine, partez à la rencontre du collectif Contrefaçon. Créé en 2013 à l'initiative d'étudiants de l'ESSAB, site de Rennes, et du master Métiers et Arts de l'exposition, l'association Contrefaçon, qui préconise l'appellation collectif Contrefaçon, a la volonté de sortir des classifications traditionnelles et des règles établies dans le champ de l'art contemporain. À travers plusieurs expositions et événements, ce groupe propose de s'interroger sur la liaison paradoxale entre la communauté et l'individu. Il s'agit de trouver des manières de sauver l'individu dans son autonomie sans rejoindre le communautarisme ni tomber dans l'individualisme. L'exposition deviendrait alors le moment où individualité et identité commune pourraient fusionner. Dans son propre fonctionnement, le groupe cherche des alternatives à l'hégémonie auctoriale du commissaire d'exposition et tente de supprimer les tensions entre artistes et commissaires en créant des partenariats et en privilégiant les projets collectifs. Les frontières entre les arts sont également transgressées pour permettre une ouverture sur l'autre dans des problématiques communes. Si les membres du groupe se projettent dans un travail collectif en mettant leurs expériences personnelles dans un fond commun, la création individuelle n'est cependant pas refoulée. Dans ce cadre, les expositions et événements proposés tendent à faire rentrer l'art dans la vie quotidienne et à repenser la notion d'art engagé comme de nouveaux rapports au monde, et donc en lien direct avec le spectateur. Les notions de conservation et de mémoire peuvent ainsi être repensées car c'est le moment de l'événement, son partage et la présence physique des participants qui est au cœur de la création. Je retrouve donc Dorian et Robin à l'atelier du Vivarium qu'ils investissent actuellement avec leur événement Mode Opératoire. Et ils m'expliquent alors pourquoi le collectif est en quelque sorte sans repère, géographiquement parlant bien entendu.
Donc on a pris la décision dès le début de ne pas avoir de lieu à Rennes pour pouvoir rester nomade. Donc c'était dans le projet de l'association de pouvoir faire d'autres choses à côté, pouvoir avoir des vies dans d'autres villes en fait, et pouvoir se retrouver et travailler à distance sur des projets culturels différents, notamment plutôt en exposition en art contemporain.
Puis aussi, surtout, ce qui a été assez important au départ, c'était qu'on n'était pas amené à se rencontrer tout de suite dans notre vie professionnelle. Et du coup, on a eu ce besoin assez rapidement de pouvoir créer des ponts entre ce qu'était la fac et entre ce qu'étaient les beaux-arts pour pouvoir confronter comme ça deux regards très distincts et très différents à la fois sur nous au niveau des beaux-arts et notre production et notre réflexion, et eux au niveau de la faculté, au niveau de ce qu'ils étaient amenés à faire plus tard, c'est-à-dire créer des expositions en rapport avec des artistes. On avait aussi un rapport un peu critique, chacun de notre côté, vis-à-vis des possibilités de commissariat et de comment ça pouvait se construire aujourd'hui en matière d'art contemporain. Et du coup, je pense que c'est ce qui a fait, qui a été l'élément déclencheur pour qu'on puisse créer cette association qui, du coup, s'appelle Contrefaçon.
On a un aspirateur.
Robin déclare. Ok, c'est soluble.
T'as mon torchon.
Vous l'aurez compris, Contrefaçon, c'est avant tout une association qui a su briser la frontière infime, voire imaginaire, qui cependant subsiste entre Beaux-Arts et Département des Arts Plastiques de l'Université. On en vient donc aux événements passés, en cours et à venir.
Alors, on a eu un projet, notre premier projet, en fait, était à Vivarium pour les ateliers portes ouvertes de la ville de Rennes. Donc, on a créé Caraquet. En fait, on a invité des musiciens, artistes sonores plutôt, à faire des fichiers en format MIDI et des musiciens, donc la pure et dure, à improviser sur ces fichiers-là un soir de performance à l'atelier Vivarium. Donc, c'était une sorte de duo anachronique, en fait, où les deux participants ne pouvaient pas jouer vraiment ensemble. Les fichiers MIDI étaient tiré au sort pour les musiciens. Il y avait aussi une installation avec des karaokés de plusieurs pays différents, en plusieurs langues différentes, où chaque spectateur qui venait à l'exposition, donc ça durait 3 jours, pouvait venir chanter directement avec un micro. Il y avait aussi un piano sur place où les gens pouvaient jouer. Donc voilà, une idée un peu participative pour quelque chose de très mondialisé en fait, le karaoké, quelque chose de plus interactif. Donc, en fait, c'était l'idée aussi d'interroger la propriété et que tout le monde puisse s'approprier en fait une chanson connue et sans avoir de droit dessus. En fait.
Tout de suite, un extrait de la performance Carapointqué avec Jean-Félix Aubois qui accompagne à la batterie un fichier sonore d'Alexandre Delecroix.
Il Donc on a aussi fait le projet Taille Unique Printable qui a eu lieu en mai à la Galerie du 48 à Les Laboratoires où en fait on a invité des artistes un peu de différents pays, on a fait des appels à projets dans des écoles des beaux-arts à faire un fichier en format A4, donc des œuvres en format A4, un ou plusieurs, qu'on a imprimé en noir et blanc simple. Et en fait c'est une œuvre qui existe surtout sur internet, on a fait un Tumblr où on recense toutes les œuvres qu'on nous envoie avec une biographie des artistes, etc. Et ça permet à chacun de faire sa propre exposition chez lui, en fait c'est des œuvres téléchargeables. Le lancement de ce projet était à la Galerie du 48 où Damien Marchal a fait une performance avec des imprimantes et on imprimait en direct les œuvres des artistes qu'on installait en direct pendant la soirée et que Damien avait amplifié les imprimantes. Donc ça faisait un bruit un peu étrange dans la galerie.
Est-ce que vous pouvez me parler du projet qui a lieu en ce moment dans le cadre de la Biennale OFF qui s'intitule Mode opératoire ?
Donc en fait, Mode opératoire, c'est une sorte de trilogie qu'on a voulu installer autour de la question de la place des archives chez les artistes en fait aujourd'hui. Comment est-ce que les artistes jouent et s'amusent en fait de leurs propres archives. On s'est posé la question initialement de savoir, nous, au travers de nos études, combien d'expositions on avait réellement pu voir dans notre vie. On a tous été regarder énormément de catalogues, on a tous été influencés par énormément de commissaires sans jamais avoir pu voir une seule de leurs expositions. Et du coup, la réflexion, c'était de se demander si une photographie d'exposition, en fait, pouvait remplacer l'expérience elle-même de l'exposition. Et donc, à partir de ce postulat-là, comment est-ce qu'on pouvait jouer avec ce code-là, en fait. Toujours dans ce rapport de cas contre contrefaçon avec l'idée du flux en fait, avec l'idée de la diffusion, de la globalisation des informations et du fait que n'importe qui dans le monde aujourd'hui puisse consulter ce qui se passe un peu ailleurs dans le monde. Donc Mode opératoire, ça se divise en trois parties. Une première partie qui est une exposition qui s'appelle Déontologie du photocopieur, qui est une exposition de deux artistes lyonnais qui s'appellent Benjamin Collet et Pierre Guignard. La deuxième partie de ce volet mode opératoire, donc ce sera un cycle de trois conférences qui auront lieu donc, le jeudi 23 octobre à 17h30 à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, donc avec Charlène Boyer qui est une doctorante en art plastique à l'Université de Rennes 2 et Julie Portier qui est une critique d'art. Le jeudi 6 novembre à 18h30 au FACT Centre Culturel Colombier avec Nima Leray qui est un photographe d'exposition et Nathalie Boulouche qui est maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain et photographie à l'Université Rennes 2. Et le jeudi 13 novembre à 16h au Musée des Beaux-Arts avec Johanna Renard qui est doctorante en histoire et critique des arts à l'Université Rennes 2 et Jeanne Dantin et Sylvia Carboni.
Pour inviter en fait des artistes, des commissaires d'exposition, des critiques, des chercheurs à s'interroger en fait sur l'œuvre qui devient peu à peu un document. Qu'on a un projet, donc la suite de Taille Unique en fait, qui va être en plusieurs expositions puisque le site est finalement une base de données pour créer des expositions. Donc là, on participe à Multiple, à Morlaix, les 8 et 9 novembre au Moyen du Bord.
Avant de finir par un troisième et dernier volet qui du coup sera le lancement de l'édition qui englobera en fait toute cette réflexion aussi bien autour de l'exposition des autologies du photocopieur que de textes de critique et aussi de compte-rendu de ces conférences. Donc ce lancement d'édition qui aura lieu à l'endroit édition le vendredi 28 novembre à 18h30.
En dehors du fait que les étudiants peuvent se rendre à vos conférences et vos expositions, quel lien entretenez-vous avec eux et comment peuvent-ils s'impliquer au sein de votre association ?
Le rapport qu'on entretient avec les étudiants, bah en fait, il est assez simple parce qu'on est justement tout fraîchement débarqué de ce milieu-là. Et les questionnements qu'on se pose au final sont des questionnements qu'on a pu aborder tout au long de nos études. Nous, on encourage vraiment, vraiment, vraiment beaucoup l'idée de la discussion et de la conversation et de l'échange autour des idées qu'on cherche à soulever. Notamment, je pense que le biais de la conférence est un bon moyen de pouvoir développer ça, c'est-à-dire de lancer comme ça une parole ou une première ébauche de savoir et de pouvoir ensuite rebondir avec l'assistance, avec le public et donc du coup avec les étudiants qui sont présents. Pouvoir échanger avec eux aussi sur ces questionnements-là, qui sont des questionnements qui côtoient tous les jours au final et qui sont des problématiques auxquelles on a tous affaire.
Les étudiants peuvent adhérer, comme tout le monde, à l'association, donc en tant que membre actif. Il y a un formulaire directement sur notre site. Ils peuvent aussi faire des stages avec nous. Donc en ce moment, on a deux stagiaires, donc une de l'École des Beaux-Arts et une qui vient de rentrer en Master 1 Métiers de l'Exposition.
Je rencontre alors Maëlys et lui demande en quoi consiste son stage.
Donc moi c'est Maëlys, je suis en stage auprès du collectif Contrefaçon. Le projet mode opératoire arrive au bon moment puisque je viens d'entrer dans le Master 1 métier de l'exposition. Donc c'est une bonne mise en situation pour moi. Et dans le cadre de ce projet, j'aide à la production, donc au montage de l'exposition, toutes les démarches autour des différents projets du collectif, l'action culturelle, la médiation par exemple. Donc j'ai contact avec beaucoup d'acteurs différents et puis c'est un projet assez motivant pour moi qui arrive bien donc en parallèle de mes études dans le milieu de l'art contemporain.
Quel conseil est-ce que vous donneriez à des étudiants qui souhaiteraient entreprendre ce type de parcours ?
En fait, nous, dès le début, on n'est pas amis. On s'est rencontrés vraiment pour faire un projet. Et je pense que... Non, mais on est devenus amis parce que... heureusement, on est devenus vraiment très amis. Mais arrête ! Ça va être pourri. Je pense qu'il y a vraiment une différence entre des projets faits entre potes et des projets vraiment dès le début avec des perspectives professionnelles. Après, ouais, le conseil, ce serait dès le début des études, aller voir les associations, aller voir les gens, faire les vernissages, enfin essayer de connaître vraiment les lieux de la ville, puis aller au bout de ses idées et faire les projets, même si l'important, c'est de réaliser.
Non, puis ce qui est vraiment très important, ce qui pour nous a été constructeur, en fait, ça a été de directement penser aussi à l'échange entre les écoles et à l'échange entre les différentes structures en fait, étudiantes de la ville de Rennes, parce que c'est ce qui nous a permis aussi de pouvoir commencer à envisager un travail qui serait où chacun aurait un statut égal à l'autre, en fait, et on pourrait vraiment commencer à réfléchir non pas en termes de l'artiste qui travaillerait plus ou moins avec le commissaire ou le commissaire qui travaillerait plus ou moins avec l'artiste. Là, on est tous dans un statut de commissariat, on est tous là pour travailler la même idée. On développe des projets ensemble, on s'intéresse aux mêmes idées ensemble et l'idée, c'était de vraiment envisager ça comme un travail un peu horizontal, en fait, de chercher ensemble, tant donner plus la parole à l'un ou à l'autre, en fait, de vraiment essayer de chacun avoir son temps de parole et chacun avoir sa possibilité de s'exprimer.
We'll be right back.
attend encore quelques étudiants qui arrivent.
Dorian dit qu'on attend encore quelques étudiants qui arrivent. Elle esquisse un sourire.
Dorian est médiatrice.
Dorian est enrhumé.
Comme vous pouvez le voir, la joie règne ici.
T'en voudras un ?
Ouais, je veux bien.
On me propose un café. La jeune indigène me propose un café.
De retour sur l'émission Au détour d'une asso, où je retrouve Dorian et Robin du collectif Contrefaçon, qui, au moment où je vous parle, termine la visite de l'exposition Déontologie du photocopieur de Benjamin Collet et Pierre Gagnard. Ils recevaient un groupe d'étudiants élèves en première année d'art plastique à l'université Rennes 2.
Du coup, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a récupéré donc, toutes ces images-là et qu'il est allé les imprimer. Donc, c'est des impressions laser. C'est des surimpressions de 8 tirages à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que le laser, l'idée du laser en quelque sorte, c'est qu'il y a de la poudre de graphite qui va être déposée sur la feuille, aux endroits où on veut avoir la forme qui est dessinée. Cette poudre va être chauffée, va être fondue et va faire une première couche. Cette première couche, elle est infime, on la voit quasiment pas à l'œil nu. Mais par contre, si on commence à surajouter des surimpressions par-dessus, on finit par avoir des strates. Et ces différentes strates finissent par faire une épaisseur qui crée un bourrage papier. Au moment, la feuille ne peut plus passer en fait. Et c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure en parlant de la limite de la machine. C'est qu'en gros, il va aller chercher le moment de tension qui fait que la machine ne peut plus fonctionner. Et s'il lance une nouvelle édition, la feuille va se déchirer, le support sera complètement détruit. Donc là, il arrête tout, il récupère la feuille et il la présente en tant que telle. Donc du coup, on a tout un jeu comme ça qui se crée, qui est assez graphique. On va avoir par des... Si on se penche un peu, si on fait un peu attention à la lumière, on va avoir des formes qui vont apparaître, des choses qui vont rentrer. Vraiment dans l'idée d'un palimpseste un peu. Bah, le palimpseste, c'est à une époque, donc plutôt au Moyen-Âge, tout ça, je parle n'importe comment. On utilisait du parchemin, qui était fait donc sur des cuir, sauf que c'était assez rare et ça coûtait cher. Donc plutôt que de refabriquer constamment du papier, ce qu'on faisait, c'est qu'on recouvrait une couche de blanc et on venait réécrire par-dessus. Sauf que, en fait, à certains moments, les couches finissaient par s'effacer légèrement et on avait comme ça le texte qui ressurgissait des anciennes versions, en fait. C'est ça qu'on appelle un palimpseste.
C'est devenu un terme assez utilisé pour parler de l'interprétation et de la réinterprétation de l'art un peu de l'ordre philosophique. Et d'ailleurs, ça rappelle beaucoup le travail de Pierre et Benjamin, où Pierre part d'une œuvre, d'un motif, et qui génère plusieurs échos de lui-même. C'est une espèce de palimpseste.
Ah oui,
j'ai pas parlé.
Le casque, c'est un peu le... C'est un peu la tête de mort à l'entrée des deux fantômes. Vous savez, quand dans les BD à Sosuguet, qu'on a la ville avec le nombre d'habitants qui est rayé chaque fois qu'on tue quelqu'un, il y a une tête de roc ou un truc comme ça qui est planté sur le truc. Mais là, c'est un peu pas la même idée. C'est beaucoup moins morbide parce que la personne qui l'a porté n'est pas morte, comme le chaton à côté. En gros, c'est un hommage à Kenny Noland. L'actrice qui a joué du coup dans le rôle de la conductrice dans la fiction qu'a construit Pierre avec cette voiture. Porter donc ce casque pour pouvoir justement quand on a fait la cascade faire la transition puisque c'est pas l'actrice qui a fait la cascade, c'est Pierre. Ils ont une différence de morphologie.
Quand même bien remarqué.
Pierre est beaucoup plus carré et Marielle était beaucoup plus fine, mais bon c'est pas grave. Mais peu importe, et du coup l'élément qui permettait de se repérer, qui permettait de marquer un peu l'espace, c'était ce casque, qui du coup est posé ici comme si la personne en fait était arrivée en zigzagant et s'était un peu vautrée sur le côté, sortie de sa voiture et c'est son casque ici.
C'était une forme qui était ultra récurrente dans tout, c'est-à-dire qu'il y a des steaks, il y a des cookies qui sont en forme de Texas, il y a des photos, il y a le Texas, les gens ont des boucles de ceinture avec le Texas, des t-shirts avec le Texas est de partout. Et du coup cette forme est devenue une espèce de... ça s'est vraiment inscrit dans sa rétine et il a gardé ce truc-là, cette obsession, à tel point du coup de fabriquer cette machine qui peut reproduire en série des états du Texas.
Ils ont un mot que je trouve assez joli pour définir leur travail ensemble. Ils disent qu'ils travaillent pas ici ensemble, ils disent qu'ils s'ennuient ensemble. Je trouve ça assez joli.
Quelque part, il y a une sorte de mise en abîme dans le sens où vous allez faire l'édition de tout le projet, donc le vernissage, le cycle de conférences, finalement, où vous allez expliquer votre démarche qui est de rendre compte du fait qu'on peut, à travers une édition, se réapproprier le travail d'un commissaire ou le travail
forcément
du régisseur d'une exposition en tant que tel.
C'est pas forcément se réapproprier, en gros, c'est donner un regard décalé sur l'exposition, c'est proposer un autre regard. C'est...
plusieurs points de vue.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on va travailler aussi beaucoup avec tous les échanges de mails qu'on a pu faire avant. On a écrit une dizaine de mails en amont. Ce sont des mails fiction en fait, c'est-à-dire qu'on ne parle pas spécialement de l'exposition en fait, on se raconte des histoires.
Avec les artistes.
Hein. Avec les artistes, oui. Pas entre nous parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. On se raconte des histoires et donc ça va être...
On va parler de quelqu'un qui serait enfermé dans une grotte ou quelqu'un qui serait enfermé devant son ordinateur à scroller des pages internet. Et au final, on finit par parler de l'exposition à demi-mot, mais on n'en parle pas vraiment. Et c'est tout ce regard-là qui nous intéressait aussi, c'est comment est-ce qu'on peut décaler un peu la chose.
Ça découlait,
et ça avait découlé directement en fait, d'une réflexion sur une habitude un peu curatoriale assez récurrente qui était celle du reenactment. En fait. Bon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça fait un grand tapage pendant un temps parce que ça a été vraiment la question du moment. C'était en gros, le reenactment, c'est prendre une exposition et la refaire plus tard. La reproduire.
C'est quoi de la réinterpréter en fait ? C'est une réactivation de la d'exposition.
L'exemple, l'exemple frappant qui nous avait nous marqué, c'était. Typiquement, ça c'est très 90, le French Prince. Fresh Prince. Vous connaissez le prince de Bel Air ? Le Fresh Prince of Bel Air, c'est. Bah, je sais pas. Ouais, donc du coup, c'est vrai que la question du reenactment et de cette interprétation, nous, c'est un truc qu'on a pu constater lors d'un voyage d'études à Venise, pour la Biennale de Venise, donc de l'année dernière. Et du coup, il y avait le reenactment de Quand les attitudes deviennent formes, l'exposition phare de Ralph Zeman, que je pense que vous serez forcément amené à un moment ou un autre à voir, parce qu'elle a posé les bases de tout ce qui est. Le minimal, l'arte povera, l'art conceptuel, enfin c'est...
Et même le métier du commissaire
d'exposition. Et l'idée du métier de commissaire d'exposition parce que c'est Harald Zeman et que c'est un peu le papa.
Non, c'est lui le père du statut actuel, le commissaire. C'est à partir de lui, concernant. Enfin même que la profession de commissaire est apparue réellement. Oui, et puis il a théorisé cette notion. Vous pouvez trouver son ouvrage à Rennes 2 dans la bibliothèque. C'est un très très gros pavé. Harald Zeman est un Suisse.
Après, on a écrit
je vois pas le rapport entre le pavé et le suivant.
Sarah, tu es en L1 du coup en art plastique.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui t'a incité à aller en art plastique après ton bac ? Je suppose que tu sors du bac.
Ouais. Moi, c'est travailler avec les artistes et travailler dans l'espace d'un lieu d'exposition, quelque chose comme ça qui m'intéresse beaucoup en fait. Et
du coup, toute cette réflexion autour du commissariat amateur qui a pu être présenté avec Contrefaçon, t'en as pensé quoi ?
Bah, c'est intéressant. Moi, ça me conforte un peu dans mon idée que j'ai envie d'aller plus loin dans ces études. Même en tant qu'amateur, on peut s'impliquer là-dedans, dans ces productions-là. Du coup, ça m'intéresse beaucoup, ouais. Ça me donne envie d'aller plus loin.
fait une demi-heure, c'est genre format court, micro au point et tout.
Ah ouais, tu vas avoir trop de montage.
Sauf ce Dogme 95, tu vas genre,
allez, vite.
Il va faire un bêtisier de ma femme.
Essaye pas de m'embrouiller avec ton langage technique.
Ton jargon.
Avec ton jargon. Est-ce qu'elle met le pélo?
Ou j'ai un coup de pelle dans la gueule.
Everywhere! That was a band blast.
Oublie pas mon bas de pyjama.
Oublie pas ma grenouillère.
Oublie pas ma grenouillère.
Robin, ça clignote. Robin, pourquoi ça clignote? Robin, ça clignote. Robin.
Amène mes chaussons.
De deux heures.
Ah, j'ai ramené la boule, moi. Hein.
On s'est prévu une soirée d'enfer.
En plus, avec un peu de chance, on va jamais avec nous.
On va se tamponner.
On va se tamponner. On va aux limites de la machine.
Enfin, le. Non, je veux dire, t'as chargé de gonfler.
Est-ce que t'as gonflé Christine?
Notre programme de la soirée.
Ça s'appelle Soulon Jean-Benoît et Tamponnons Jean-Benoît. Ah, quelle soirée!
Non, mais t'assieds pas, t'es pas obligé, tu sais, je me souviens. Je comprendrais si tu veux rester debout.
Je pense que je branche tout parce que je sais pas quel prix c'est. Ah oui, ok.
Non, c'est bon, on l'allume déjà.
Je peux pas en parler.
Ah bah là par contre tu viens de te fuiter tout seul. On va aux limites de la machine. Et alors ça tamponne. Enfin, j'ai pas arrêté de faire ça pendant toute l'exposition. Et du coup ça... Ah ça claque.